Radio Barque, contre-regard sur l'actualité narbonnaise. Radio Barque, notre 30e de cette 4e saison. Bonjour Michel.
Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Jacques Bascou.
Bonjour.
Président du Grand Narbonne, de la communauté d'agglomération. On vous retrouvera dans une troisième partie pour une interview beaucoup plus longue sur les sujets actuels, comme cela est de tradition et d'usage dans cette émission. Au sommaire aujourd'hui, Michel, tout d'abord, alors un billet que tu as fait sur ton blog à propos de la tombe de Charles Trenet,
oui,
et de déclarations plus ou moins intempestives, en tout cas trouves-tu, de Monsieur El Hassidi.
Oui.
Après quoi, un regard aussi, alors un contre-regard sur la manif des grévistes de la fonction publique à Narbonne.
Oui.
Dans une deuxième partie, Joël Baquet, chronique littéraire. Et nous terminerons par PLN alias Port la Nouvelle, excusez-moi. Donc le port, avec quelques vicissitudes sur un grand projet qui fait couler beaucoup d'encre et qui parfois entame des rétropédalages, semble-t-il. Enfin bon,
oui,
tu nous diras ce que tu en penses. Alors tout d'abord, la tombe de Charles Trenet, dont on sait qu'elle est à Narbonne, pour des raisons historiques.
Oui, Jean-Claude, on le sait quasiment chaque année. En fait, en tout cas, bon, un nommé El Hassidi, en fait, nous le rappelle chaque année pour le jour anniversaire de Charles Trenet, qui est le 15 mai. Donc le 15 mai, Monsieur El Hassidi sera au cimetière de l'Ouest, en compagnie...
Alors rappelons qui est Monsieur El Hassidi.
C'est le légataire universel de Charles Trenet.
Donc l'héritier, on va dire.
Et il n'est connu que pour cela. À ma connaissance, il n'a pas d'autres, comment dirais-je, œuvres littéraires, en fait, ou dans le monde de la chanson, qui le caractériserait comme un monsieur...
Son titre de noblesse,
légataire universel. Son titre de noblesse, si on peut dire, est celui d'être le légataire universel de Monsieur Charles Trenet. Donc chaque année, il se rend ici à Narbonne, au cimetière de l'Ouest, devant la tombe de Charles Trenet. C'est le 15 mai, l'anniversaire de Charles Trenet. Il aurait fait 105 ans aujourd'hui, entre parenthèses. Et là, en compagnie d'amis, en fait, ou de fans, pour utiliser un terme à la mode, de Charles Trenet, mais aussi de la presse qui ne manque pas de convoquer à l'occasion, il fait une déclaration, en fait, ou en tout cas, il s'exprime sur ce monsieur, ce grand monsieur que fut Charles Trenet, ce grand poète surtout. Et il ne manque jamais, cette occasion, c'est ça qui m'a particulièrement imité, de rabâcher, si je puis dire, en fait, toujours la même chanson, à savoir que, la ville de Narbonne ne fait rien pour lui. Pour lui, Charles Trenet.
Pour la tombe,
on n'en sait rien, mais je ne pense pas qu'il se limite à la tombe en question, parce que la tombe en question, étant le légataire universel, n'étant pas forcément à la rue, je parle de ce monsieur, comme tout un chacun, il a le devoir, moral en tout cas, de veiller à ce que la tombe de Charles Trenet correctement entretenue.
Ça, c'est quand même son job, en quelque sorte.
Oui, je ne demande pas, moi, à la mairie, d'entretenir la tombe de mes parents.
Mais peut-être attend-il de la mairie de Narbonne qu'on construise une sorte de panthéon.
Je pense qu'il a d'autres idées derrière la tête. Et ce qui m'a particulièrement irrité, cette espèce de chantage qu'il fait régulièrement, c'est pour ça que je parle de rabâchage. Et en faisant observer, et en le disant haut et fort, repris par la presse, que, il n'hésiterait pas à déplacer ces termes, rapportés par la presse en tout cas, la dépouille ailleurs. Et il cite des noms où Charles Trenet serait passé, aurait eu quelques activités, dont je ne donne pas le détail. Alors, il dit Saint-Chignan, Béziers, Canet-en-Roussillon, Nogent-sur-Marne.
Ça fait un grand choix, déjà.
Pourquoi pas Barbera, toutes les villes faites de France qui figurent dans la chanson de Trenet, que sais-je encore. Et en plus, suivi ce genre de propos, d'une menace pour enfoncer le clou, si je puis dire, en précisant qu'il était en négociation, c'est ces termes, je suis en négociation avec des maires d'autres villes. Voilà, donc cette espèce de vulgarité qui franchement n'est pas du tout conforme à l'esprit, et comment dirais-je, à l'image de Charles Trenet, qui dans ses chansons en tout cas avait l'art présenter sa ville lui-même et son art en des termes beaucoup plus poétiques et
d'une autre façon,
est beaucoup plus satisfaisant pour l'esprit.
Mais comme on dit en bon international, wait and see, on verra bien ces menaces. Monsieur Bascou, ancien maire de Narbonne, vous sentez impliqué quand même.
Je ne voudrais pas remettre en cause donc la première partie, qui est une intervention sur plusieurs sujets de Michel Santo, mais je trouve qu'il est un peu sévère. Bon, je ne me prononce pas sur la venue de Georges El Assidi, mais je crois que derrière, il y a le traîné qui peut être un élément intéressant pour la notoriété d'une ville, et je sais que plusieurs villes, donc pourquoi Saint-Chinian, parce que le père de Charles Traîné
a exercé en tant que
un certain nombre aussi de lieux qui étaient familiers de Charles Traîné.
Bon, il a été pensionnaire à Béziers, à Perpignan.
Et le fond, si vous voulez, où il y a Béziers aussi. Le fond du problème, si vous voulez, c'est au-delà, bien sûr, de la mémoire de Charles Traîné, qui était un artiste que personnellement j'apprécie, il y avait la possibilité, ce qu'on avait essayé de faire, faire un festival avec surtout l'idée d'avoir un musée de la chanson. C'est la raison pour laquelle on avait acheté les archives de Charles Traîné, et il y avait également aussi les archives de Chevalier. On avait des contacts avec Sète, avec Nougaro aussi de Toulouse, puisqu'il était à Pasiol. Si vous voulez, l'idée, c'était de faire un musée de la chanson. Et à côté de la maison de Traîné, il y avait un bâtiment qu'on avait réservé. Aujourd'hui, il y a les Restos du Cœur, pour justement, avec la SACEM, avec l'INA, avec Jacques Pessis, d'avoir un festival Traîné qui rendrait hommage à des chanteurs, notamment Juliette Gréco. Un certain nombre, à sa mort, elle a promis un certain nombre d'archives de léguer à Jacques Pessis. Donc c'était intéressant pour Narbonne.
Alors peut-être que ce projet n'est pas mort pour l'avenir.
Mais si, puisque si vous voulez, la maison qui était à côté de Charles Traîné, si vous voulez, la maison est vendue aux enchères aujourd'hui par la mairie. Comme la mairie veut se débarrasser des archives de Charles Traîné. Et je pense, au-delà, je vous dis, du personnage de Georges El Assidi, que quelque part, c'est dommage que Narbonne ne reconnaisse pas Charles Traîné, et que finalement, aujourd'hui, il y a des thématiques qu'on peut développer et qui peuvent permettre le développement du tourisme, qui en plus est un tourisme culturel. On l'a vu dans la programmation du Festival Traîné, qui d'après moi n'avait rien à voir avec ce qui se fait aujourd'hui avec Barkhane.
Alors, Michel...
une au point quand même, Jean-Claude, parce que si je suis interrompu de cette manière aussi, je n'ai plus de place pour mes chroniques, donc...
Mais si, il y a de la place. On demandera à Jacques Bascou de nous faire un prêt sur son temps d'antenne.
Non, mais ce que je ne partage pas vos idées, mais me battrai pour que vous puissiez les expliquer.
Voilà. Ça, c'est un credo que je défends personnellement.
Ce que je veux dire par là, en fait, c'est que le débat n'est pas... Enfin, l'objet de cette chronique n'est pas ce débat-là.
Oui, c'était un peu...
Ce débat, on l'aura une prochaine fois.
C'était ces répliques un peu bizarres de monsieur El Assidi.
Ce que je ne supporte pas, ce que je voulais mettre évidence, c'est qu'on ne peut pas prétendre en fait défendre en fait la mémoire d'un chanteur et d'un poète comme Charles Traîné.
Et se comporter
de cette manière-là. Et le fait même de revenir sur ce genre de propos pour le justifier d'une certaine manière, en fait, en avançant derrière des arguments politiques, me fait d'autant plus de peine qu'effectivement, ça mériterait un débat placé sur des hauteurs, en fait, intellectuelles un peu plus élevées que celles-ci que je viens de rapporter.
Voilà. Bon, alors, élevons-nous pour le second sujet de cette partie. Michel, ton contre-regard sur la manif des grévistes.
Bon, oui.
Les manifs, il y en a beaucoup, tu dois être satisfait.
Que j'avais lu ce matin-là, en fait, un texte de mon ami Gilles Joinard, en fait, un poète, en fait, écrivain, qui en son temps dirigeait le Centre régional de la culture. En fait, qui a écrit une belle biographie d'ailleurs de Pierre Reverdy, qui n'est pas connu pour ça à Narbonne, et c'est bien dommage, je parle de Gilles Joinard, et de Reverdy qui d'ailleurs devrait l'être, puisqu'il ne l'est aujourd'hui, je ferme la parenthèse.
Oui, ça a été dit X fois et ça ne s'est pas réalisé dans
les faits. Non, et je sais si j'insiste à chaque occasion d'en dire deux mots, car j'ouvre encore une parenthèse, pour moi, un des plus grands poètes contemporains, et je trouve que là aussi, sur Narbonne, sa mémoire n'est pas suffisamment mise en valeur. Je ferme la parenthèse. Donc, je lisais un texte de Gilles Joinard récemment, en fait, et puis le matin même d'ailleurs de cette manifestation, sur le fait que il s'était, lui, il concluait ce texte en disant, voilà, je suis un misanthrope mais chaleureux, et un agoraphobe bienveillant. Un genre d'oxymore. Donc, il supportait pas trop, effectivement, les foules.
Et donc, il ne participe pas au manif.
Je lisais ça, et puis je vais chercher mon pain, comme d'habitude, en fait, hein. Et ce faisant, procédant à ma randonnée urbaine, en fait, habituelle, jusqu'à ce que j'arrive, effectivement, à la queue, en
fait. Alors, détail important, le fait d'aller à la boulangerie t'a fait rencontrer la manif.
Ah ben oui, parce que je vais toujours en tour de ville, en fait, hein. C'est le début d'une randonnée urbaine qui me fait passer par le jardin de la Révolution. En fait, joli nom, hein, en espèce, oui. Bon, ça était parfaitement adapté. En fait,
alors, cette manif.
Et je me retrouve, en fait, au cul, si je puis dire, en fait, la manif en question, qui était habillée, si je puis dire, par un véhicule de la police municipale qui lentement, en fait, hein, assurait, en fait, l'arrière de la manif. Et je me disais, bon, voyant cette foule compacte, entre parenthèses, hein, le journal local avait c'est un chiffre de 500 manifestants, ce qui m'a surpris statistiquement. Je trouvais ça très exagéré.
Au niveau local comme national, il y a beaucoup de choses à dire.
C'est quasiment tout.
Les fake news, c'est pas Trump qui les a inventés, les fake news.
Je pense que le journaliste en question a dû compter à la fois les manifestants et les drapeaux qu'il brandissait pour arriver à 500. En tout cas, il y avait ce full compact, donc, comme je l'ai indiqué comme ça. Tout à l'heure, et puis voilà, donc ça la police municipale en forme de voiture balai fait boucler élastiquement cette manif, hein, de fonctionnaires en grève. Alors nous voyons ici comme d'un seul corps, vraiment, ils étaient particulièrement au point, cris, slogans, hostile au président de la République.
Oui, donc du classique, quoi.
Voilà, tandis qu'une camionnette de la CGT, c'était une manifestation intersyndicale, hein, tous les syndicats avaient appelé.
Ça c'est souvent le cas aussi.
Bon. Mais au bout, il y avait donc devant une petite camionnette de la CGT, avec des petits drapeaux, elle aussi, qui roulait à petits pas, hein, façon de parler encore, hein, et qui ouvrait cette manif. Et il y avait une jeune dame aussi qui, armée d'un mégaphone, bon, lançait des mots d'ordre cadencés en rafale, tout en allant, elle, par contre, dangereusement en marche arrière pour faire face à son cœur qui était là, à l'espèce remarquablement obéissant. Alors j'arrive, c'est pour ça que j'arrive en allant.
Alors quel rapport avec ta réflexion première?
Ben oui, parce que je me disais, en compact, que là-dedans, en fait, dans cette petite manifestation, là, il y avait forcément des personnes à titre individuel, hein, qui, libérées de leur carcan et de leurs préjugés, en fait, idéologiques, en fait, et culturels, pouvaient se révéler, bon, en elles-mêmes, quoi, hein, attendrissantes, émouvantes, sincérité, d'humanité, hein, et que je doutais fort, me faisant cette remarque, que le groupe lui-même, en tant que tel, quoi, hein, ne saurait évidemment jamais être comme une personne.
Les manifs ont-elles été faites pour révéler la tendresse des personnes
que souvent dans ces groupes, en fait, bon, les motifs étaient suspects, qu'on y voyait s'exprimer l'hypocrisie, la lâcheté, de la vilainie, etc., comme dans tout groupe humain. Pour ça, pour dire Jean-Claude, mais comme je le fais ici, que je me tienne toujours un peu à distance de ce genre de grande foule, et que j'essaie, par cette mise à l'écart, de jeter un autre regard, quelquefois ironique, mais toujours empreint d'humanité, sur une actualité qui souvent se manifeste sous des formes un peu trop vulgaires, à mon goût.
Si tu permets, avant de marquer la pause, j'ajouterai une petite citation de Georges Brassens. « Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. » Et l'on marque une première pause.